Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir et bien évidemment aussi d'accueillir nos invités qui viennent de loin puisqu'ils viennent de Chine. Bien sûr, je suis tout particulièrement heureuse et honorée d'accueillir dans ces murs Zhu Gang, que je remercie d'être là, et aussi Thierry Ménard, qui est bien évidemment un peu plus familier de ces lieux. Notre soirée est vraiment originale par cette confrontation, je dirais, de deux univers et de deux manières croisées, en quelque sorte, de croiser donc philosophie occidentale et philosophie chinoise, puisque nos deux intervenants de ce soir ont l'un et l'autre cherché à faire des ponts. J'admire beaucoup que Zhu Gang se soit risqué à traduire Derrida et Emmanuel Lévinas, dont nous savons en France la difficulté. Et Thierry Ménard, de son côté, s'est penché sur un philosophe chinois, Liang Shuming, et là aussi, c'est tout un autre univers que le nôtre, immédiatement. Je voudrais dire néanmoins que s'il y a ce point commun entre nos deux intervenants ce soir, il y a néanmoins une grande différence entre les deux auteurs dont ils vont parler. Et à travers ce que je peux connaître de Liang Shuming, je connais nettement mieux Lévinas, mais Liang Shuming s'intéresse à la comparaison entre les cultures. Il ne me semble pas que ce soit le propos premier d'Emmanuel Lévinas, ce n'est certainement pas son propos premier, même si il a le souci de se faire rencontrer Athènes et Jérusalem. Il le dit très expressément, puisqu'il essaye de dire, dans les mots de la philosophie d'origine grecque, quelque chose de la pensée juive. Mais donc leur propos est néanmoins différent. Mais je pense que notre soirée sera très stimulante, avec deux penseurs très différents, mais avec un même souci de faire des ponts entre des univers. Notre soirée va se dérouler de la façon suivante. Dans un premier temps, je donnerai la parole à Zhu Gang, qui donc nous parlera des enjeux de sa traduction en chinois d'Emmanuel Lévinas. Puis je donnerai la parole à Thierry Ménard, qui nous parlera de son travail sur Liang Shuming. Et la deuxième partie de la soirée sera un débat entre eux, s'ils le souhaitent, et en tout cas avec la salle, autour des questions que nous aurons posées, leurs interventions. Dans un premier temps donc, je vais donner la parole à Zhu Gang et je vais le présenter brièvement. Donc il est titulaire d'un doctorat de philosophie de l'Université de Pékin en 2004. Le titre de la thèse est le suivant, « Origine et différence ». La déconstruction par Jacques Derrida de la métaphysique de l'origine. Et donc depuis 2004, il est professeur de philosophie européenne, en particulier de phénoménologie, à l'université Sun Yat-sen à Canton. Et il est aussi responsable des étudiants du premier cycle de philosophie. Il a traduit tout récemment, en 2014, en chinois, « De l'esprit » de Derrida, et la traduction de « Totalité et infini » d'Emmanuel Lévinas est sous presse. Je lui donne donc la parole et je le remercie.
Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais pardonner. Parce que je ne parle pas bien le français. D'abord, je vous remercie, président Saint-Sèvres, Père François Poétique, et Monsieur François Rominal, président Institut Riche. Et je voudrais aussi remercier professeur Isabelle Bush. Merci. Et je voudrais aussi remercier à professeur Gillian Goss, oui. Aussi remercie mon collègue, professeur Thierry Ménard. Enfin, je vous dis, monsieur Yves Wang, il m'a traduit mon article de chinois en français. Merci. traduit par Yves Wang. Non, je, maintenant je vous lis mon article. Le titre, la double variation de soi-même et de l'autre de la traduction chinoise du livre d'Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Première section. Comme relation entre soi-même, l'ego et un autre, la traduction est fondamentalement une double variation. La traduction du livre Totalité infinie en chinois, Zong Qi Yu Wu Xian, touche à sa fin, mais il n'est pas publié maintenant. Je pense peut-être il sera publié cette année. Cette soirée est l'occasion de revenir sur ce processus et d'examiner les difficultés que nous avons rencontrées au long de ce parcours. Nous profitons de cette occasion pour réfléchir à la question de la traduction, du point de vue du traducteur et du point de vue du texte traduit, à ce qu'implique la traduction, et en particulier à ce que la traduction et l'introduction de Levinas en Chine nous apportent. Qu'est-ce que la traduction? Antoine Berman a dit « La traduction est l'épreuve de l'étranger. » La traduction, c'est l'expérience que fait l'ego, le soi ou le moi, de l'étranger. C'est la rencontre du moi avec un autre. Notre expérience de traduction à l'égard de Totalité infinie de Levinas est de ce type. Or, ce type d'expérience, c'est précisément le sujet dont traite l'ouvrage Totalité infinie. La philosophie de Levinas s'interroge sur comment l'ego rencontre les autres. C'est une philosophie qui réfléchit à comment éviter la violence imposée par l'ego au cœur de ce type de rencontrer et respecter l'altérité de l'autre. Donc, la philosophie de Levinas nous fournit une perspective appropriée, peut-être l'une des plus appropriées, pour parler de la traduction. Ainsi, avant de parler de notre propre traduction de Levinas, nous devons rentrer dans la philosophie de Levinas, rentrer dans sa pensée sur comment le moi fait l'expérience de l'autre, comment le moi approche l'autre comme autre. Ainsi, selon la pensée de Levinas, dans la rencontre de soi avec l'autre, ou lorsque nous faisons l'expérience de l'autre, que se passe-t-il? D'abord, d'un point de vue ontologique et épistémologique, afin de connaître ou comprendre l'autre, nous devons commencer par la perspective qui est la nôtre, avoir recours aux a priori qui sont les nôtres ou à nos connaissances a posteriori, pour assimiler l'autre. Donc il y a un mouvement d'unification avec l'autre, de conceptualisation, de thématisation. Nous réduisons l'autre à nous-mêmes. C'est un rapport ontologique ou épistémologique. Ce type de rapport, selon les mots de Levinas, n'est pas une relation avec l'autre comme tel, mais la réduction de l'autre au même. Par conséquent, il a l'objet d'une paix avec l'autre, mais suppression ou position de l'autre. Sans aucun doute, ce type d'expérience de l'autre est déjà une variation qui induit de la violence. Par conséquent, si l'on comprend la traduction au niveau ontologique comme une forme de compréhension et de transmission. Elle est justement la violence et l'assimilation de l'autre. B. Mais si l'on se base sur une philosophie de l'hospitalité telle que Levinas l'appelle de ses voeux, et si l'on s'appuie sur l'éthique comme philosophie première pour comprendre ce qu'est la traduction, alors elle devient une forme de relation sans relation. C'est une relation qui doit préserver l'altérité de l'autre. Alors, comment en définitive devons-nous procéder à la traduction? De notre point de vue, la traduction doit suivre deux préceptes. Premier, d'abord, avant d'assurer la possibilité de la traduction, nous ne pouvons éviter une assimilation minimale et inévitablement transformer l'original. D'un autre côté, la traduction doit maintenir l'altérité de l'autre et rester à l'écoute de l'appel qu'il nous fait, afin de nous prémunir de la pure violence. Mais pour actualiser ces objectifs du début à la fin, nous devons vivre une variation envers notre propre langue maternelle, c'est-à-dire faire preuve d'hospitalité. Alors, seulement nous sommes capables d'accueillir le vis-à-vis de la traduction et de garder ce qu'il est. Par conséquent, la traduction comme relation entre soi-même, l'ego et un autre est fondamentalement une double variation. D'une part, c'est une variation de l'autre, le traduit, mais c'est aussi une variation de ma propre langue maternelle. Deuxième section, la variation du nom de Levinas. D'abord, on discute la traduction du nom lui-même de Levinas. En chinois, le nom de Levinas peut être traduit de trois manières concurrentes. Lévinas, Lévinas et Lévinas. Les nuances de ces trois noms ne concernent pas le son, mais la prononciation. Les premiers caractères Lé, Le, Lai représentent trois prononciations différentes de la première syllabe Le de Levinas, Lé, Le et Lai. Il est probable que la situation de pluralité que connaît la traduction du nom chinois de Levinas continuera à l'avenir. Devant cette multiplicité, nous sommes invités à déconstruire l'identité et la totalité du philosophe. Peut-être est-ce là la première manière d'accueillir sa pensée. Troisième section, la variation au plan des mots. Le mouvement de la traduction inclut la considération des quatre niveaux des mots, des phrases, des textes et des cultures. Selon Paul Ricoeur, le dernier acte, si l'on peut dire, la dernière décision de ce mouvement concerne l'établissement d'un glossaire au niveau des mots. Le choix du glossaire est la dernière épreuve où se cristallise en quelque sorte infini ce qui devrait être une impossibilité de traduire. Par conséquent, lorsque nous discutons de la traduction de la philosophie de Levinas, que ce soit au début ou à la fin, nous devons toujours passer par le niveau du mot. Regardons quelques exemples. 1. La variation du terme être. L'une des plus grandes difficultés lorsque l'on traduit d'une langue occidentale vers le chinois est la traduction du terme être. Cette difficulté naturelle est bien entendu présente lorsque nous traduisons Levinas, car il y a au cœur de la philosophie de Levinas une critique et une sortie du concept d'être, portée traditionnellement par la tradition occidentale. Ces concepts ont en philosophie au moins trois significations. 1. Un usage de copule vers ta association. En chinois, si ci, qui en chinois se traduit par shi, et exprime l'existence ou existant. Et en chinois, cela est rendu par 存在 ou 存在者. C'est exprime il y a, qui est un équivalent de l'allemand escape ou de l'anglais zaris. En chinois, ce sens du terme est traduit par you. Ce débat existe aussi dans la traduction de la philosophie de Levinas, mais il se centre principalement sur le choix entre les deux premières options, où deux courants s'opposent. Parmi le premier courant qui promeut la traduction par shi, il y a le professeur Wu Xiaoming qui, lorsqu'il traduit le premier chapitre de Hautement Quête ou Au-delà de l'essence, fait l'être qu shi et traduit l'essence par shi qi zhi suo shi, littéralement c'est l'être de ce qui est. Dans la traduction de Totalité infinie, je n'ai pas traduit l'être par shi ou qu shi, mais plutôt par 存在 ou 存在者. Mes raisons sont les suivantes. D'abord, l'être dans la philosophie de Levinas renvoie souvent à la notion d'existence ou d'existant. Sur cette base, entre traduire par 存在, 实存 ou 存在者, 实存者 est plus approprié. Deuxièmement, en chinois, 是 est souvent utilisé comme gobule et par moment renvoie à la notion d'exactitude. 对 ou 正确, correct. C'est uniquement dans des situations particulières que le terme exprime la notion d'existence. Par conséquent, lorsque nous utilisons 是 pour traduire l'être, alors qu'il renvoie plutôt à 存在, ce n'est pas une habitude qui est très satisfaisante en chinois. Deuxième, la variation du terme responsabilité. Lors de la traduction de la philosophie de Levinas, une autre variation est perte de sens impossible à éviter concerne la notion de responsabilité. Ce terme est lui aussi central chez Levinas. On peut dire que la philosophie de Levinas nous fait réfléchir sur la responsabilité envers l'autre à laquelle il est impossible d'échapper et à la question de l'origine de cette responsabilité. Alors, comment doit-on traduire ce terme? Dans la plupart des traductions de l'Occident vers le chinois, le terme de responsabilité est traduit par le terme 责任. Mais il y a ici un problème. Le verbe qui correspond au nom responsabilité est répondre, qui vient du latin respondere et dont le sens original est celui qui reste le plus courant. Répondre à une question, à un email, répliquer. Dans l'usage que Levinas fait du terme de responsabilité, ce sens est présent et est même le sens premier. La responsabilité suppose que lorsque je reçois l'appel de l'autre, je dois y répondre. Mais dans le terme chinois de 责任, il n'y a pas la moindre trace de ce niveau de sens. Le sens principal du chinois 责任 renvoie à la charge d'un office, au devoir lié à une charge, 职责, et n'a pas du tout le sens de réponse. Afin de faire ressortir le sens de réponse à l'appel et pour souligner le sens que Levinas donne à la responsabilité du soi envers l'autre, nous traduisons de temps à autre responsabilité par 应承. Dans 应承, le premier caractère 应 renvoie au terme de 回应, qui veut dire répondre, répliquer, et le second caractère 成 suggère que le moi sert l'autre de bas en haut. Par exemple, dans la phrase suivante, Levinas écrit Dans le discours, je m'expose à l'entrée en question d'autrui et cette urgence de la réponse, point aigu du présent, m'engendre pour la responsabilité. Comme responsable, je me trouve ramené à ma réalité. Chinois, traduction est 在话语中, 我向他人的讯问, 展露自己, 而这种回应, la réponse, 回应, 的击破, 当前的紧急性, 为了责任, 物应承, responsibility, 而把我生产出来, 作为能负责者, 物能回应者, responsible, 我被引向我最终的 实在, OK. Troisième, la variation du terme visage. Un autre terme central de la philosophie de Levinas qui doit passer par de nombreuses variations est celui de visage qui peut être rendu par lien, mien-kong ou mien-rong qui en sont les trois principales traductions. Il y a des différences sensible entre ces termes, à lien. Je crois que c'est une traduction plutôt bonne parce qu'elle peut rendre le sens que Levinas lui associe comme expression ou discours. Je ne choisis pourtant pas ce terme en raison de trois considérations. La première raison est que c'est un mot monosyllabique, alors que dans le chinois moderne, la plupart des noms comportent deux syllabes. La deuxième est que lien en chinois peut désigner la gueule des animaux. Or, selon la philosophie de Levinas, peut-on employer les termes d'expression ou de discours pour les animaux? Cela reste une question. Troisièmement, Levinas décrit souvent la relation entre l'autre et le soi avec les termes de face à face et de vis-à-vis. Qu'on traduit en chinois mien, tui, mien. Si l'on traduit visage par lien, on ne peut ensuite passer sans encombre de lien à mien, tui, mien. Pei, mien, kong. C'est effectivement un terme avec deux syllabes. Et de plus, le caractère « mien » est présent, il est donc plus facile de passer ensuite à la traduction de « face à face »,« mien de mien ». Mais bien qu'il laisse davantage, je n'ai jamais adopté cette solution, parce qu'en chinois, il a tendance à faire croire que le visage, c'est principalement l'apparence physique, l'aspect extérieur. C'est un mot moralement neutre qui choisit la notion de visage. L'objectif est en fait un trait de thématisation. Cependant, selon Levinas, le visage, c'est justement ce qui s'oppose à la neutralité, à l'objectivation. Et il est d'abord une forme d'expression, de discours, d'appel. Ce niveau de sang n'est pas exprimé de manière satisfaisante par le terme de mien-kong. C'est mien-rong. Je préfère traduire par mien-rong. Les raisons pour cela sont, d'abord, il est un terme dissyllabique et d'un point de vue formal, il convient mieux au rythme de la langue chinoise et aux exigences de la composition littérale en chinois. Ensuite, par rapport à mien-kong, mien-rong n'indique pas dans l'expression d'une dimension spatiale extérieure qu'une expression de sentiment, comme un langage qui formule extérieurement des sentiments. Par exemple, en chinois, il existe l'expression un air douloureux, tonkou de mien-rong. Une physionomie triste, chaotique de mien-rong. De ce point de vue, la dimension d'objectivation et de chosification est plus limitée. Cela est plus cohérent avec la notion de visage, selon Levinas. Enfin, lorsque l'on traduit visage par mien, le passage à la notion de face à face, mien de mien, est plus facile. Quatrième section, la variation au plan des phrases. Lorsque l'on traduit la philosophie de Levinas vers le chinois, le deuxième niveau de traduction à travers lequel il faut passer est celui de la variation de la phrase. Une des lignes qui sous-tend l'ensemble du travail philosophique de Levinas est la critique de la violence engendrée par l'identification de l'être et par la vision essentialiste grecque. Mais l'anthologie grecque est liée à la langue grecque et notamment au logos, ainsi qu'à la manière de conduire des raisonnements en monde grec. Et tous ces différents éléments sont liés. Par conséquent, pour critiquer l'anthologie grecque, il lui faut consciemment ou inconsciemment s'opposer à l'approche grecque. C'est d'ailleurs ce qui conduit Levinas à adopter un style spécifique d'écriture. Par exemple, la structure de phrases de Toledo infinie, souvent, mais pas toujours, n'explicite pas les connexions entre les arguments et parfois même évite d'utiliser le verbe être et de se faire détruire de l'intérieur l'omniprésence de la domination de l'être. Tous ces éléments, en particulier pour le traducteur, donnent quelques difficultés et défis. Lorsqu'il s'agit de passer au chinois, il est impossible d'éviter certaines variations, ou bien nous devons ajouter des connecteurs afin de montrer les enchaînements logiques, car sinon la traduction chinoise n'a pas de sens. Par exemple, Levinas écrit « Générosité nourrie par le désir, dans ce sens, relation qui n'a pas disparition de la distance, qui n'est pas rapprochement ou rapport dont la positivité vient de l'éloignement de la séparation, car elle se nourrit, pourrait-on dire, de sa fin. Le sens général de ce passage est que la générosité est une forme unique de relation ou de rapport, mais parce que dans ce passage, la phrase principale est une phrase nominale. Il n'y a pas de verbe principal dans la première partie. Ainsi, si l'on traduit directement en chinois, il n'est pas possible de rendre ce type de rapport. La générosité est une forme unique de relation. Dans les traductions anglaises et allemandes, les traducteurs reprennent un modèle de phrase qui est sujet plus et chi plus communément. Avant de mieux faire passer le sens de la phrase de Levinas en chinois, nous avons nous aussi transformé la phrase de Levinas en phrase avec verbe. Je lis la traduction chinoise. Oui, 慷慨由被欲望者所滋养, 在这个意义上它是一种关系. Oui, cette phrase, il est expérience, variation. 在这个意义上它是一种关系, si on traduit de chinois en français, elle est dans ce sens une relation qui, etc. OK. Cinquième section, la variation de notre propre langue maternelle. Non seulement la philosophie de Levinas peut donner une base pour comprendre quelle est la violence que la traduction ne peut éviter, l'assimilation de l'autre par le moi, mais elle fournit encore une exigence morale. Nous sommes invités à accueillir l'autre et même plus à aller au-devant de lui et en même temps tenter de préserver son altérité. Cette exigence est un appel pour nous. Dans le processus de traduction, nous pouvons être sur nos gardes par rapport à la violence de l'assimilation et pour autant que faire se peut, il s'agit des pas dénuyer cette violence le plus possible. Afin d'essayer de réaliser ce point, nous devons aussi accepter une transformation ou variation de nous-mêmes envers notre propre langue maternelle, le chinois, afin de pouvoir développer la plus grande hospitalité possible envers le texte original de l'autre. Ce type de variation de ma langue maternelle se joue essentiellement au niveau du mot, afin de permettre l'entrée de la pensée de Levinas dans le monde sinophone. Il faut parfois donner un sens nouveau à certains mots, ou bien alors activer un sens jusqu'alors caché dans les mots. Il faut même parfois faire preuve de créativité et former soi-même de nouveaux mots. Prenons quelques exemples. La variation de Xiangshou, Xiangshou est chinois. La première situation que l'on peut rencontrer peut être illustrée par la traduction du terme « jouissance » par « xiangshou ». À Tantôté Infini, Levinas utilise le terme de « jouissance » pour dépeindre le lien de la corporité de notre sensibilité avec les éléments. Dans la jouissance, nous pouvons nous sentir peinés dans l'élément ou bien être dans l'élément. La jouissance a deux caractéristiques. Elle est le lien le plus original qui se produit entre le moi et l'extériorité, même avant la production du moi. Parce qu'ici, ce qui fait la sensibilité du sujet jouissant n'est pas encore devenu un moi. Le vis-à-vis jouit des éléments qui ne sont pas encore synthétisés en choses évidemment. Être dans l'élément est entrer à ce que Heidegger appelle un être au monde. B. La jouissance n'est pas nécessairement la sensibilité positive, comme le joie, le plaisir, mais peut être aussi un sentiment de négativité, comme un sentiment d'inconfort corporel ou la tristesse. B. En chinois, le terme de xiangshou a d'une part, Il dégage la relation entre le moi et la chose, et donc il n'a pas le sens d'origine que Levinas met dans le terme jouissance. D'autre part, la plupart des sentiments décrits par le terme sont positifs et sont un coup sûr des sentiments. Cela n'exprime pas des sentiments négatifs, encore moins la négation des sentiments. C'est donc, lorsque nous utilisons « xiangshou » pour traduire « jouissance », nous devons élargir la signification du terme de tous côtés et enrichir le sens original en chinois. D'un côté, non seulement la jouissance ne dessine plus seulement la relation du moi avec des choses évidemment déjà formées, mais surtout, dans le vue de Levinas, elle dégénère une relation entre la sensibilité elle-même qui précède le moi et les éléments, qui précèdent les choses. D'autre part, xiangshou n'est pas seulement un terme qui exprime seulement des éléments positifs ou des impressions, mais il exprime aussi une forme de négativité, des éléments négatifs. Ainsi, lorsqu'on utilise xiangshou pour traduire jouissance, le terme chinois reçoit lui aussi des variations. Deuxième, la variation de Wuduan. La deuxième situation que l'on peut rencontrer peut être illustrée par le terme de Wuduan sous la forme d'adjectif Wuduan de. Pour traduire le terme anarchique en français signifie d'abord une situation où il n'y a pas de gouvernement. Un état sans autorité, sans ordre de concision, mais dans Tantôté Infini, Levinas l'utilise en deux sens. A, en référence au sens originel de ce qui se situe à l'origine pour exprimer ce qui est sans commencement, sans origine. Par exemple, un monde absolument silencieux qui ne nous viendrait pas, à partir de la parole, fût-elle mensongère, serait anarchique, sans principe, sans commencement. Oui, par extension de sang, il veut dire sans signification, c'est-à-dire à la limite du non-sang. Par exemple, mais déjà comme anarchique à la limite du non-sang. En chinois, le terme de Wudan, comment utiliser un seul terme en chinois pour rendre ces deux sens du terme anarchique? J'ai choisi le terme de Wudan. D'abord, le premier sang, le sang littéral de caractère, signifie sans commencement. Et cela correspond donc au sang que Levinas donne au point de départ anarchique. Cependant, ce sang sans commencement, dans le terme actuel ou dans le chinois moderne, est relégué au second plan et n'est pas mis en valeur, car le sang quotidien est sans raison, sans aucun fondement. Par conséquent, j'utilise Wudan pour traduire en archi, ce qui active le sang originalement caché dans le terre par les expressions du chinois moderne de sans raison. Puis, deuxièmement, Wudan, dans le chinois moderne, a le sang de déraisonnable. D'absurde et de ce point, cela éclaire aussi le sang donné au terre par Levinas à en archi. Ici, il nous faut encore compléter, car anarchie est un terme essentiel pour le dernier Levinas, celui totalement quête ou au-delà de l'essence. Bien que ce mot signifie sans commencement, sans origine ou au principe, Levinas l'utilise afin de décrire le type de responsabilité du moi à l'égard de l'autre, car notre responsabilité à l'égard d'autrui est essentiellement sans fondement, sans raison. Et il faut revenir à un niveau pré-essentiel, remonter jusqu'à la préhistoire du moi, afin de chercher sa source. En ce lieu, le moi est obsédé par l'autre, il est retenu en otage par l'autre. Troisième, avancer des mots, fiction-lun. La troisième situation est celle où, afin de préserver l'intégrité de l'œuvre de Levinas et d'éviter qu'elle soit éliminée par l'assimilation et l'explication, nous devons inventer des mots que j'invente Feixianlun ou Feixianlun de pour traduire le terme athéisme ou athée est un bon exemple. Athéisme signifie traditionnellement sans Dieu, Wu Shen Lun. En chinois, c'est Wu Shen Lun. Mais Levinas, dans Totalité Infinie, n'emploie pas le terme dans le sens de son usage commun. La notion ne signifie pas un point de vue qui nie l'existence de Dieu, mais désigne le psychique ou bien l'âme qui se trouve dans une situation séparée de Dieu. Par exemple, il écrit ainsi, l'âme, la dimension du psychique, accomplissement de la séparation, est naturellement athée. Par athéisme, nous comprenons ainsi une position antérieure à la négation comme à l'affirmation du divin. La rupture de la participation à partir de laquelle le moi se pose comme le même et comme moi. Et donc, la traduction traditionnelle pour athéisme, Wu Shen Lun, qui veut dire la négation du divin, évidemment, va contre l'interprétation de Levinas. J'écris le terme Fei Shen Lun. Fei veut dire non, pour traduire athéisme. Et Fei Shen Lun de pour traduire l'adjectif athée. Cela soulignerait la dimension qui n'est pas en rapport avec Dieu, du terre, et resterait sans rapport avec la question de la négation ou de l'affirmation du divin. sixième section. Pourquoi vouloir traduire Levinas et introduire sa philosophie en Chine? Ici, nous arrivons au dernier point que nous voulons discuter. Pourquoi vouloir traduire Levinas et introduire sa philosophie en Chine? Ou pour le dire autrement, que peut apporter la philosophie de Levinas en Chine aujourd'hui? D'un point de vue herméneutique, différents lecteurs chinois voient naturellement des leçons différentes à tirer. Personnellement, je crois que la philosophie de Levinas comporte au moins trois aspects qui méritent notre attention. D'abord, Levinas nous apprend comment faire de l'autre un autre avec lequel nous nous tenons en vis-à-vis, avec lequel nous pouvons traiter. Dans la tradition de la pensée chinoise, il n'y a pas de notion d'autre absolu, un autre qui soit totalement séparé de moi, différent de moi, en dehors de tout ensemble d'appartenance, comme par exemple un pays, une ethnie ou un clan. La philosophie de Levinas nous invite à penser en dehors de ce type de périmètre. Comment envisager l'autre en tant que tel? Ensuite, la philosophie de Levinas, avec l'invitation à répondre à la question « Pourquoi ai-je à répondre de ma responsabilité devant autrui ?» nous fournit un certain nombre d'éléments de réflexion. Dans la philosophie chinoise traditionnelle, la responsabilité envers les autres est d'abord une responsabilité envers ses proches, ceux de son clan et de sa famille. Ainsi, dans le confucianisme, la notion de piété filiale, xiaoqi, le devoir envers ses parents et ses frères aînés, est la base de la vertu de bienveillance jeune. Par conséquent, dans une approche confucianiste, la notion de responsabilité ne peut être comprise qu'au travers d'une mise en perspective avec ce mécanisme d'extension des relations familiales. Néanmoins, cette perspective risque toujours de gommer la dimension d'altérité de l'autre. Avec Levinas, c'est le contraire. La responsabilité que j'ai envers l'autre ne vient pas de relations dues à une appartenance familiale commune, mais en raison de l'appel de son visage, son choix pour moi qui imprime ma constitution d'homme. Je ne peux esquiver cette responsabilité. La pensée de Levinas nous fait réfléchir sur comment la responsabilité en elle-même peut être comprise d'une manière différente de la perspective confucienne traditionnelle. Enfin, la philosophie de Levinas s'ancre sur l'association de l'expérience dans la culture juive et de la phénoménologie. Les réflexions de phénoménologie sur les questions de visage, d'appel, de substitution, des sens de l'homme ont indubitablement un lien avec l'arrière-fond juif. Comment la culture chinoise peut-elle dialoguer avec la phénoménologie? Comment la phénoménologie peut-elle aider à renouveler nos manières de penser et de communiquer? Et par suite, comment la culture chinoise traditionnelle peut-elle se renouveler au travers d'un échange avec la phénoménologie? La philosophie de Levinas, sans aucun doute, continuera à stimuler notre réflexion. Voilà. Merci pour votre attention.
Un très grand merci à Zhu Gang pour cet exposé tout à fait passionnant, même si j'avoue que les traductions chinoises m'échappaient nécessairement. Mais disons qu'en tout cas, j'ai bien saisi l'effort considérable que suppose la traduction d'Emmanuel Levinas en chinois, aussi bien dans le choix des mots, le choix du glossaire, que dans la manière de construire les phrases et de respecter le style propre d'Emmanuel Levinas, et comment cela vous obligeait aussi à inventer ou à transformer certains mots de votre propre langue maternelle afin de rendre au mieux la signification de certains mots. Évidemment, cela est d'autant plus sensible qu'Emmanuel Lévinas lui-même joue sur la langue française et qu'évidemment, il déplace aussi le sens d'un certain nombre de mots en français. Donc évidemment, la difficulté se redouble en chinois. Et vous nous avez très bien montré en conclusion quel pouvait être l'intérêt d'une telle ouverture à la pensée de Lévinas pour la Chine. C'est vrai qu'il y a sans doute une pensée de l'autre, probablement vraiment différente, qui d'ailleurs, je pense aussi pour nous Français, a fait bouger, je pense, certaines manières d'appréhender cette question de l'autre. La notion de responsabilité aussi, vous avez très bien montré le jeu que, dans la pensée de Lévinas entre responsabilité, répondre à quelqu'un, répondre de quelqu'un, et ce répondre à semble très difficile à traduire en chinois avec un mot qui soit en même temps signifiant de la responsabilité au sens plus habituel du terme. En bref, bien sûr je ne vais pas tout évoquer, mais je crois que vous nous avez très bien expliqué comment cette traduction d'Emmanuel Lévinas était un véritable défi, mais un défi très riche de sens. Je vous en remercie. Je vais maintenant donner tout de suite la parole, après quelques mots d'introduction, à Thierry Ménard. Il est bien entendu que nous aurons le temps ensuite de discuter avec Zhugang et avec Thierry Ménard. Donc Thierry Ménard a obtenu en 2003, ce sont des années quasi similaires, hein, son doctorat en philosophie chinoise à l'Université de Pékin. Et il a enseigné au département de philosophie de l'Université Fordham à New York de 2003 à 2006. Il enseigne actuellement, il est professeur dans le département de philosophie de l'Université Sun Yat-sen. Et ses axes de recherche me semblent assez variés, puisqu'il s'intéresse aussi bien donc à Ricci lui-même, qu'il a traduit, mais aussi donc à Confucius, et c'est l'objet plutôt de ce soir, à Liang Shuming. Liang Shuming, sur lequel il a écrit un livre en anglais, je donne la traduction française, « La philosophie religieuse de Liang Shuming, le bouddhiste caché », je pense que je le traduis exactement. Et je suppose qu'il s'appuie notamment sur cet ouvrage, Les idées maîtresses de la culture chinoise de Liang Shuming, traduit en français par Michel Masson, dont je suis heureuse de saluer la présence parmi nous ce soir. Et donc je donne tout de suite la parole à Thierry pour qu'il nous explique un peu.
Très bien, oui. Merci Isabelle. D'abord, merci, un grand merci donc au Centre Sèvres et à l'Institut Ricci. D'abord, pour cette initiative qui est venue en fait de Guilhem, le professeur Guilhem Kos, qui a passé avec nous à Sun Yat-sen l'année dernière, 4 mois, un séminaire sur Ricoeur qui a été mémorable, donc avec aussi le professeur Zhugang. Voilà, et donc très content. Je suis alors aussi content d'intervenir aujourd'hui avec donc le professeur Zhugang. On était ensemble donc à l'Université de Pékin, lui étudiant donc la philosophie française et moi étudiant la philosophie chinoise. Et on s'est retrouvés par les hasards comme ça dans le même département aujourd'hui à Canton. Et voilà, donc voilà. Alors aujourd'hui, donc effectivement, parler de Liang Shuming. Alors moi, j'ai la chance, pas comme le père Masson. Le père Masson a vraiment fait un travail de traduction sur Liang Shuming. Moi, j'ai pas vraiment traduit Liang Shuming lui-même, donc j'ai écrit des choses là-dessus. Et alors, je voudrais pas vous parler justement de ma recherche. Alors, je voudrais d'abord commencer par peut-être un historique et donc revenir en arrière. Il y a une centaine d'années, donc la première date, ce serait 1919. Alors 1919, c'est une année importante, c'est les intellectuels chinois qui arrivent à un pénible constat. Pour sauver la nation chinoise, il faut abandonner la tradition, hein, la tradition de la Chine, parce qu'elle n'est plus tenable à l'époque. Il faut abandonner les valeurs chinoises afin de faire face à l'Occident. C'est la seule manière finalement pour la Chine de survivre politiquement, c'est d'abandonner sa tradition. Donc on voit bien tout le jeu qu'il y a là entre l'indépendance politique qui va se payer au prix de l'abandonnement de la tradition culturelle chinoise. Alors, ça c'est donc le grand courant de 1919 qu'on appelle avec tout le mouvement de la nouvelle culture. Et justement, Liang Shuming va se poser en opposition à ce mouvement. 1921, il écrit son livre qui s'appelle Les cultures d'Orient et d'Occident. Et là, justement, il va, au contraire de ce mouvement de la tradition, et il va dire en fait non, la Chine en fait doit garder sa culture chinoise, on doit retrouver l'essence de la culture chinoise, sa spécificité. Et donc, Liang Shuming va dans un sorte de retournement complet, va proclamer la supériorité même de la culture chinoise par rapport à la culture de l'Occident. Et va même dire que la culture chinoise est l'avenir, pas seulement pour la Chine, mais pour le monde. Voilà, vous voyez, donc on a là une sorte de basculement en opposition avec le mouvement massif de l'époque qui était de rejeter toute la tradition pour sauver la nation. Alors, il y a également, chez Liang Shuming, également la question donc de l'Occident, la question du confucianisme, mais il va y avoir également la question du bouddhisme. Alors aujourd'hui, je voudrais présenter justement en cinq points assez briefs. Donc d'abord, sa typologie des cultures, comment il va parler des trois cultures, et ensuite de voir comment ces trois cultures arrivent en interaction à l'époque moderne. Dans un autre point, de voir comment finalement ce sera la rencontre avec l'autre. On a parlé beaucoup d'altérité avec Lévinas, et donc ce sera avec l'autre, mais dans la position de l'autre souffrant, qui va amener également Liang Shuming à également une décision par rapport au monde. Et finalement, de voir comment ça va s'engager également dans son engagement social éducatif, et à la fin de également quelques points pour parler un peu de son actualité aujourd'hui. Alors d'abord, quelle est la typologie des cultures pour Liang Shuming? Donc, on a la chute de l'Empire en 1911, et cette chute de l'Empire a pour Liang Shuming des conséquences familiales très lourdes, puisque son père va en fait se suicider pour montrer en fait une sorte d'attachement non seulement à la dynastie, mais plus encore à la tradition justement. Et donc son père va se jeter dans un hiver glacé de Pékin dans un lac. Et ça va être c'est des moments donc où on voit des tiraillements très forts dans la vie de Liang Shuming, parce qu'à la fois donc il y a le suicide du père qui est attaché à la tradition. Liang Shuming lui-même participe plus ou moins à la révolution, donc il est plus ou moins un partisan finalement à l'époque donc de la nouvelle Chine, mais après certaines manières l'effervescence de la révolution, il va tomber lui-même dans une dépression profonde qui va l'amener à deux tentatives de suicide. Et ensuite, il va se remettre debout finalement dans sa famille en lisant les sutras bouddhistes. Et il va s'isoler pendant plus d'un an et il va faire une expérience spirituelle très profonde en lisant des sutras bouddhistes, mais également des livres également de philosophie occidentale. Alors, ce n'est pas un isolement complet parce qu'également il produit quelques articles. Et c'est grâce à un de ces articles qui va être repéré par le président de l'université de Pékin, Tsai Yuanpei, qui repère finalement cet article et qui va appeler Liang Shuming à venir donner des cours sur le bouddhisme à l'université de Pékin. Alors Liang Shuming va dire, mais je ne connais pas le bouddhisme très bien, mais Tsai Yuanpei, qui démarrait aussi cette université de Pékin, dit, mais enfin vous connaissez aussi bien que moi, donc vous pouvez commencer les cours. Alors Liang Shuming va s'attacher à donner 2-3 ans d'enseignement sur le bouddhisme. Donc à l'époque, il est identifié vraiment comme quelqu'un qui veut rendre le bouddhisme actuel. Mais après 2 ou 3 ans d'enseignement à Pékin, à l'université, en fait, il va annoncer un revirement complet, puisqu'il va dire que finalement, l'avenir pour le monde, ce n'est pas le bouddhisme, mais le confucianisme. Alors, chez Liang Shuming, on voit qu'il est influencé par plusieurs courants. Il y a le courant, bien sûr, de Bergson. Bergson, le courant vitaliste, qui était très important à l'époque, puisqu'il donnait finalement une sorte de dynamisme à la réalité chinoise, un sentiment finalement de mouvement dans la culture face à une société, une culture chinoise qui était perçue comme très statique. Donc il y a un élan vital qui traverserait la culture. Et Liang Shuming va comprendre cet élan vital aussi à la manière bouddhiste, comme un flot qui se situe au niveau de la conscience et qui est constitué en fait d'éléments, hein, d'éléments discrets qui se succèdent à la conscience les uns aux autres. Et donc il y a une loi karmique qui fonctionne au niveau de la conscience. Mais comment justement arriver à ce que ce flot justement soit maîtrisé et ne génère pas d'angoisse? Donc Liang Shuming va en fait faire une analyse du moi, et donc il va distinguer en fait un moi actuel et d'un moi antécédent. Donc il va dire en fait on a un moi actuel, et le moi actuel se construit et va toujours s'affirmer en se démarquant du moi antécédent. Hein, donc il y a toujours une construction du sujet qui se fait justement dans la conscience. Et donc le moi est toujours porté par un constant désir de s'affirmer, d'affirmer son existence. Et donc il y a toujours une projection dans l'avenir. Alors cette projection est à la fois quelque chose de bien, et en même temps également peut être un enfermement, puisque ça va être toujours une sorte de projet sans fin justement, et qui va donner lieu également à de l'angoisse. Alors justement, Liang Shuming va essayer d'établir trois orientations différentes hein, pour ce moi, par rapport à la volonté. Donc il va dire qu'en fait, le moi, il a en fait trois choix fondamentaux. L'un, c'est de s'engager dans une lutte avec soi-même et avec son environnement afin de satisfaire ses désirs. Donc là, c'est le moi qui est toujours en train de se projeter, de vouloir s'affirmer. Hein. Une autre, c'est en fait que le moi doit non pas chercher à se projeter à l'extérieur, mais en fait se transformer de l'intérieur et s'accepter intérieurement. Et puis une autre manière du moi d'exister, ça va être finalement de renoncer à tout désir, hein, donc de supprimer le désir lui-même. Et donc Liang Shuming fait par exemple une comparaison avec la maison, un habitat. Par exemple, il va dire, si on a une maison qui est plus ou moins dilapidée, quelqu'un va dire, je vais construire une nouvelle maison, plus grande, avec plus belle, et donc on va rentrer dans un projet de construction. Hein. Mais là, c'est aussi la maison n'est jamais assez belle, et de cette manière, ça va être toujours une sorte de projet qui va être finalement très usant. Ou alors, une autre manière, finalement, ce sera de dire, bon, on habite dans cette maison, on va rester dans cette maison, on va pas avoir de projet de construire une nouvelle maison, mais on va se changer intérieurement. Hein. Et donc, on va modifier son mental. Et la troisième possibilité, finalement, ça va être la voie bouddhiste, qui va être dire, mais finalement, j'habite dans cette maison, mais mon désir de maison en soi, le désir d'habitat, en fait, est quelque chose d'irréel, et je dois le supprimer, et donc on va nier, finalement, ce désir. Donc, trois orientations de la volonté. Et donc, pour Liang Shuming, ces trois orientations de la volonté vont correspondre à trois cultures, finalement. Donc, il va dire que l'affirmation du désir correspond à la volonté de maîtrise et de conquête sur le monde matériel, et il va dire que cela représente surtout la culture occidentale. Par contre, la volonté d'ajuster le moi à la réalité présente, ça va être plutôt la voie des Confucéens. Par contre, la troisième voie, la voie de renoncer au désir lui-même, ça va être la voie de l'Inde, la voie du bouddhisme. Et Liang Shuming dit finalement que les trois cultures se développent suivant des axes indépendants, suivent chacune leur orientation spécifique avec leurs points forts et leurs points faibles. Donc aucune d'entre elles finalement, aucune de ces trois cultures ne peut renoncer finalement à ce qu'il est. Alors Liang considère que les tentatives du mouvement de la nouvelle culture en Chine sont vouées à l'échec. En effet, si la modernisation de la Chine signifie son occidentalisation, ce genre de modernisation ne fonctionnera pas, car la conquête de la nature, la démarche scientifique ou les débats démocratiques caractéristiques de l'Occident vont contre l'éthos même de la culture et de la société chinoise. À ceux qui se demandent combien de temps il faudra à la Chine pour être une société moderne, une société démocratique comme en Occident, Liang Shuming répond que malgré tous les efforts, cela n'arrivera jamais. Liang insiste donc sur les orientations spécifiques des cultures. Chacune doit s'engager dans un travail sérieux pour approfondir la connaissance de son essence culturelle, spécialement en temps de crise. Seules les cultures qui ont une connaissance profonde de leurs racines, de leur histoire, de leurs spécificités, pourront continuer à se développer. Au contraire, les cultures qui renieraient leurs propres traditions, au nom de la nécessité de la survie, au nom d'un faux universalisme, seraient condamnées à disparaître. Alors là, on voit donc les trois cultures qui sont juxtaposées. Alors, ce qui est intéressant avec Léon Chaumine, c'est qu'on va voir les trois cultures également rentrer en interaction à l'âge moderne. Et donc, c'est une influence également qui a des aspects également positifs. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, par exemple, dans le cas de la Chine ? Même si la Chine ne doit pas renoncer à sa tradition, elle doit tout de même apprendre de l'Occident les techniques, les sciences qui permettent le progrès matériel et aussi les méthodes d'organisation qui rendent la société mieux gérée. C'est précisément parce que la Chine a privilégié trop tôt une éthique de l'harmonie qu'elle n'a pas pu développer une économie moderne et un corps social suffisamment fort. Le corps de la Chine reste atrophié. Il faut maintenant se former à la raison scientifique de l'Occident. Aussi, Léon Chaumine, quand il va créer des écoles de formation dans les campagnes chinoises, des formations techniques, il va également allier finalement la culture confucéenne également avec une formation technique scientifique. Léon Chaumine va aussi modifier la doctrine bouddhiste, puisque la souffrance est pour lui une expérience profonde de culpabilité qui conduit finalement immédiatement à renoncer au monde. Donc, pour Léon, ni l'Occident ni la Chine ne peuvent répondre définitivement à la question du sens ultime de l'existence humaine. Ou si elles y répondent, ce sont des réponses temporaires, partielles. En fait, il faut pour Léon aller au-delà de la question du sens de l'existence humaine, la dépasser par un évitement même de la question, en coupant toutes les attaches physiques et psychologiques avec ce monde, permettant alors l'accès à une transcendance extramondaine. Alors il ne s'agit pas de quitter le monde physiquement, mais d'y vivre sans y être psychologiquement et moralement attaché, ni au moi, ni au monde. Aussi, même si Liang Shuming a promu en Chine le confucianisme, c'est bien la troisième voie, celle du bouddhisme, qui constitue pour lui l'horizon de l'histoire humaine. Et quand il parle du bouddhisme, celui-ci représente un dehors de la Chine. Liang Shuming est même très sévère sur les formes sinisées du bouddhisme chinois, comme celui de la terre pure, qui promet une meilleure réincarnation dans ce monde. Pour Liang, le bouddhisme, c'est l'Inde. Et si le bouddhisme a pu entrer dans la culture chinoise, ce n'est qu'en se pervertissant, en abandonnant son idéal de renoncement radical au monde. Donc Liang a toujours considéré la transcendance absolue comme l'essence et la finalité du bouddhisme. Cette transcendance a constitué pour lui l'objectif ultime de son existence personnelle, ainsi que celui de l'humanité entière. Ainsi, Liang a été très soucieux de préserver la question de la transcendance. La culture occidentale et la culture confucéenne appartiennent à ce monde, et donc une certaine dose de mélange entre elles est légitime. Mais le bouddhisme n'appartient pas au monde, et donc représente une sortie du monde, et son objectif de transcendance n'admet pas d'être dilué dans les cultures du monde. Alors, troisième point, la rencontre avec l'autre, et l'autre souffrant, et c'est là peut-être qu'on peut rejoindre des aspects avec Lévinas. Donc, nous savons que dans le bouddhisme, nous avons la théorie des quatre nobles vérités. On part de l'expérience fondamentale de la souffrance. Ensuite, on va s'interroger sur l'origine de la souffrance. Ensuite, la suppression de la souffrance. Et finalement, un chemin de libération. Donc, finalement, ces quatre vérités, dans le bouddhisme, ces quatre vérités nobles, d'une certaine manière, forment tout un parcours, finalement, à partir d'une expérience très forte de la souffrance. On essaye de faire un parcours pour, justement, se libérer de la souffrance. Alors, pour Liang Shuming, il va y avoir, finalement, peut-être un raccourci, parce qu'il va faire une expérience directe de la souffrance, et de là, tout de suite, il va en tirer un message de renonciation au monde. Alors pour Liang, la souffrance, il ne s'agit pas d'abord de ma souffrance face à ma maladie, à la vieillesse ou à la mort, mais ça va être d'abord une souffrance existentielle et morale. Parce que le seul fait de vivre entraîne nécessairement la souffrance d'autres êtres vivants. tous les hommes s'infligent nécessairement des souffrances les uns aux autres, ne serait-ce que par la nécessité de manger au moins des plantes. Parce que là aussi, les plantes représentent le vivant. Liang interroge comment le Bouddha pourrait-il supporter de rester dans un tel monde marqué par la souffrance. La réalité de la souffrance existentielle crée un profond sentiment d'affliction, de tristesse, c'est-à-dire de culpabilité même, qui ne peut se résoudre que par un renoncement au monde, une sortie du monde. Pour Liang, celui qui a été sensible à la souffrance du monde ne peut que chercher à le quitter, en y renonçant de manière radicale. Alors il ne s'agit pas bien sûr de se suicider, ni même de mourir, hein, car d'après la théorie de la réincarnation, celui qui meurt physiquement dans ce monde n'est pas nécessairement coupé de tous les attachements physiques, psychologiques qui le retiennent et qui risquent de le reprojeter encore dans le cycle du samsara. Alors pour Liang, finalement, l'épreuve la plus terrible sera la mort d'autrui en ce qu'elle révèle l'attachement au moi et au monde. Alors il y a la peur ou le chagrin de celui qui va mourir et qui ne comprend pas, qui s'enferme par lui-même dans le cycle de souffrance. Ou bien il y a l'affolement des proches autour du mourant qui se montre incapable de le laisser partir en paix. Alors la souffrance de Liang est bien différente de celle du mourant ou de ses proches. En effet, le mourant ou ses proches sont encore attachés à la notion de moi et ont peur de la mort. Mais pour un bouddhiste comme Liang, le moi comme le monde n'existe pas en tant que tel, et c'est justement cette réalisation qui libère de la peur de la mort et de la souffrance. Aussi, si Liang, comme le Bouddha, souffre, ce n'est pas parce qu'il serait attaché à ce monde, mais parce qu'il a compassion pour eux. Alors il s'agit d'une souffrance morale ou d'une compassion envers ceux qui créent leur propre enfermement et qui sont incapables de s'en libérer. Aussi, renoncer au monde ne prend pas sens seulement pour Liang, mais devient un appel, une invitation pour qu'autrui prenne conscience de ses enfermements et prenne la même résolution de couper son attachement à une conception fausse du moi et du monde. Le renoncement au monde devient donc la solution à la souffrance et cela permet finalement de recréer une unité fondamentale avec autrui par le dépassement de la question du moi et du monde. Alors on voit que c'est une expérience très radicale que Liang Shuming fait hein, de la souffrance de l'autre qu'il rencontre comme l'autre souffrant. Mais au contraire de s'enfermer finalement dans une sorte de rejet du monde, Liang Shuming va en fait, à partir de là, va complètement s'immerger dans le monde. Et c'est là que c'est ça que sa pensée est intéressante, c'est qu'il est héritier finalement de la tradition du bouddhisme Mahayana, la compassion, qui est en fait la condition même de l'éveil pour le bouddhisme. Hein. Seul celui, le bodhisattva, qui a fait le vœu finalement de renoncer à son illumination et de rester dans le monde pour travailler donc à l'illumination définitive de tous les êtres vivants, celui-là seul finalement est digne du message de Bouddha. Alors donc il faut rester dans ce monde, il faut œuvrer dans ce monde, mais il va œuvrer dans le monde non pas avec le bouddhisme, mais c'est ça qui est très original, il va œuvrer dans le monde en utilisant le confucianisme. Hein, donc on a toute la théorie dans le bouddhisme de le upaya, hein, en chinois c'est fanbianmen, hein, c'est-à-dire c'est tout en fait des stratégies des solutions provisoires pour aider les gens où ils en sont, au point où ils en sont, on va utiliser des moyens pour les faire progresser sur la voie de l'illumination. Alors Liang Shuming rend bien compte qu'en Chine, à l'époque où il est, les gens ne sont pas capables encore d'accéder au message direct du Bouddha. Donc il faut leur passer par un intermédiaire. Et pour lui, cet intermédiaire, ça va être le confucianisme, qui va fournir finalement cette upaya, ce moyen habile pour les amener vers le bouddhisme. Donc Liang Shuming va répartir les tâches. Au confucianisme, avec l'aide de la culture occidentale, il faut gérer l'existence du samsara. Et finalement, le Bouddha sera à la fin des temps pour réaliser l'entrée dans le nirvana. Alors, le bodhisattva répond de manière authentique aux besoins de son temps, accepte de rester dans le monde pour conduire l'humanité à partir du lieu où elle est vers la délivrance définitive. Alors, Liang Shuming va s'opposer finalement à toutes les tentatives de réforme du bouddhisme, notamment du moine Taishu, hein, qui veut réformer le bouddhisme, qui veut que le bouddhisme soit utilise finalement les voies occidentales, modernes pour sauver la société. Liang Shuming s'oppose à cette voie finalement de modernisation du bouddhisme et il considère au contraire qu'il faut préserver finalement ce qu'est l'essence même du bouddhisme, une sorte de transcendance radicale. Et donc, pour Liang, ce dont la Chine a besoin aujourd'hui, ce n'est pas du bouddhisme, mais c'est le confucianisme. Hein? Donc, même si le bouddhisme est seul capable, au dernier moment, de couper le dernier attachement, celui au monde lui-même, le confucianisme, lui, est aussi capable de régler la question actuelle aujourd'hui, qui est finalement l'attachement au soi, puisqu'il propose une vision dans laquelle le soi s'ouvre à un principe de créativité à l'œuvre dans le cosmos. Alors, la mise en pratique de l'idéal confucéen se réalise concrètement par les rituels, les relations éthiques au sein de la famille. Alors, Liang Shuming va développer tout un projet, notamment dans les campagnes du Shandong, et il va créer des tas de rituels. Alors, tous les matins, avec ses disciples, ils se réveillent avant le lever du soleil, et ils vont une sorte de méditation silencieuse avec Liang Shuming. Alors, ils attendent le soleil dans le froid, et puis ensuite, le soleil vient, tout le monde est silencieux, et Liang Shuming va commencer à parler, à donner son instruction. Donc, il y a des tas de rituels hein, qui sont bien sûr liés à la tradition confucéenne, voilà, mais qui sont des processus d'intériorisation par lesquels les pratiquants, finalement, rejettent finalement des préoccupations trop égoïstes du moi, essaient de s'ouvrir à la vie morale de l'univers. Et essaie de s'engager dans des projets sociaux concrets qui étaient finalement de travailler au niveau donc de l'éducation rurale, de la paysannerie dans le Shandong. Alors, Liang Shuming va travailler bien sûr donc dans ces projets-là. Alors, finalement, je voudrais finalement pour finir parler de la réception de Liang Shuming ici en Europe, ce qui me semble important. D'abord, je voudrais saluer donc ce que fait l'Institut Ricci. On a chaque mois, on a le coin des penseurs et encore aujourd'hui, on a eu un texte très intéressant du coin des penseurs sur une association confucéenne qui s'est créée à Shenzhen, et qui est intéressante. Voilà, où, le problème, c'est qu'il faut payer 5% de ses revenus à cette association. Est-ce que j'ai compris? Alors, peut-être que certains vont hésiter à joindre, mais. Voilà. Le coin des penseurs a également fourni beaucoup de matériaux ces dernières années pour penser à ces choses-là. Donc, on a bien sûr eu donc la traduction des cultures d'Orient et d'Occident qui a été faite par Lo Shengyi et le professeur Léon van der Merch. Hein. Et puis, alors, on a eu bien sûr la traduction du Père Masson, les idées maîtresses de la culture chinoise. Je salue alors ici également donc on a Sébastien Biouk là qui est avec nous ce soir aussi qui a fait un travail très intéressant avec Joël Toraval sur le renouveau du mouvement confucéen aujourd'hui en Chine et donc notamment sur les renouveaux des pratiques hein, des discours confucéens. Alors pour moi quel est un peu l'intérêt de cette pensée de Liang Shuming aujourd'hui? Alors j'ai brièvement en trois points. Premièrement, Liang Shuming tente d'articuler la spécificité culturelle dans un contexte mondialisé. De manière très fine, Liang ne se laisse pas piéger par le bipolarisme, hein, qui serait Chine versus Occident. Mais il fait intervenir une troisième culture. Hein, donc, du coup, je pense que cette sorte de triangulation, finalement, permet un dialogue beaucoup plus sain. Hein. Et donc, Liang reconnaît que l'idéal confucéen n'a été très rarement appliqué en Chine. Il considère que l'éthos confucéen est véhiculé dans la culture, dans les rituels hérités de la tradition. Alors que la culture occidentale moderne pourrait être tentée de se définir unilatéralement comme une culture universaliste, qui se serait affranchie des conditions historiques mêmes qui l'ont produite, Liang Shuming nous rappelle que l'essence culturelle ne peut pas se couper de son histoire. Je crois que c'est un enseignement intéressant pour la culture occidentale aujourd'hui. Alors le deuxième intérêt de lire Liang Shuming aujourd'hui, c'est la question du moi. Liang distingue deux niveaux du moi. Il y a le moi égotique de la pensée calculatrice et le moi éthique qui s'élève au-dessus de ses intérêts particuliers vers une raison morale à l'œuvre dans le cosmos. Et puis il y a également un troisième moi hein, qui est celui finalement la renonciation au moi hein, par laquelle on obtient la libération. Or, cette notion du moi, qu'il faudrait bien sûr distinguer des notions d'individu, de personne, est centrale dans la tradition occidentale. Et donc la pensée de Liang Shuming nous invite à purifier nos conceptions sur le moi, l'individu, la personne, et à comprendre comment l'individu accède ultimement à une réalité qui est en fait hyper-personnelle ou ultra-personnelle, qui va au-delà des définitions trop étriquées du moi. Alors le troisième intérêt pour moi de Liang Shuming, c'est la question de la religion. Liang se montre en général très critique contre toutes les formes de religion, y compris le bouddhisme, car celles-ci portent la question de la transcendance, mais finissent par se compromettre avec le monde et deviennent une idéologie de plus pour changer le monde, pour rendre le monde meilleur, pour promouvoir une œuvre philanthropique. Alors même si Liang est sensible à transformer le monde et à le rendre plus juste, il ne s'agit pas pour lui de l'essence de la religion. En fin de compte, Liang s'inquiète que la religion étouffe la question de la transcendance. Et donc il choisit de placer la question de la transcendance au niveau de la conscience individuelle et non pas au niveau des organisations religieuses. Alors une fois de plus, la pensée de Liang peut nous inviter à purifier ce concept occidental de religion, puisque contrairement au concept de culture, qui est toujours lié au monde et donc à une histoire, la transcendance vise en son essence quelque chose qui est ultimement en dehors du monde et de l'histoire. Alors finalement, un dernier point, je pense que l'importance de la question éthique rejoint les préoccupations de Lévinas. Tous les deux développent une éthique de la responsabilité basée sur la reconnaissance d'une dette envers autrui. Et en ce sens, les deux philosophes se rejoignent dans cette réflexion sur une décentration morale du sujet, et c'est cette posture philosophique qui me paraît tout à fait saine. Merci.
Très grand merci Thierry pour cette présentation et cette introduction à Liang Shuming. Je crois que tu as très bien montré comment cette typologie des cultures, enfin si j'ai bien compris, parce que j'avoue ne pas bien connaître Liang Shuming, est malgré tout liée à trois choix fondamentaux du moi. Et donc comment, et aussi tu as bien fait sentir cette pensée complexe de Liang Shuming qui tend vers le bouddhisme tout en utilisant le confucianisme, enfin, si j'ai bien compris. Donc c'est une pensée vraiment complexe. Moi, j'ai été sensible aussi, connaissant bien Bergson, à certaines réminiscences bergsoniennes, ça ou là, mais c'est sûrement beaucoup plus complexe encore. En tout cas, très grand merci. Je crois que maintenant, nous pouvons passer à la seconde partie de notre soirée, c'est-à-dire à un échange éventuel entre nos deux intervenants, s'ils le souhaitent, si vous avez envie de vous poser l'un à l'autre des questions. Et puis, bien évidemment, à un échange avec la salle, et très grand merci, Guillaume, par avance. Pour le micro. Donc, vous êtes beaucoup d'entre vous nettement plus compétents que moi pour interroger nos intervenants. Donc, surtout, n'hésitez pas. François Minal.
Bonsoir. C'est une question au professeur Zhou Kang. Il y a à l'université Fudan à Shanghai un professeur qui s'appelle Sun Xiangchuan et j'avais lu un petit article de sa part sur un trait de Lévinas qui l'avait beaucoup marqué, à savoir que Lévinas ne voulait pas être un philosophe juif, mais il voulait être philosophe, il voulait être juif. Et ce professeur de Sun Xiangchuan se demandait dans quelle mesure est-ce que ça pouvait aider les Chinois qui ont aussi un peu le même problème, parce que quand ils disent « je suis philosophe chinois », beaucoup de gens disent « ça n'existe pas », pour être à la fois philosophe et chinois. Est-ce que votre rencontre avec Lévinas vous permet de comprendre ce qu'il vient de dire, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt opposé à ce type de perspective?
Il faillit, cher. Il faillit. Il n'y a plus à faillir. Il faut traduire un peu. Je ne comprends
pas très bien. Désolé. Il faut traduire.
Levinas, il y a 3 种说法. Levinas 的一个重点, 是他说呢, 我不是一个犹太的哲学家, 我是犹太人, 我也是哲学家。 所以就是我想问你呢, 是不是你同意这个, 而是他也以后说的, 可能就是这么一个观点, 这么一个, 表达的方式 也会帮我们中国人, 就是, 因为就是中国的哲学, 很多的人这个不存在, 有哲学, 而且哲学就是从西方来的, 哲学肯定是西方的, 但是, Levinas的观点, 可能也可以帮中国人, 就是一方面是哲学家, 另外一方面是中国人。
Merci. Désolé, je ne peux exprimer ma pensée en français, donc je exprime en chinois et je vais mettre traduit. Je 包括孙尚淳对他的这个观点的这个理解，的确，就哲学的这样，作为一种独特的思想的方式来说，它是起源于希腊，源于西方，中国古代是没有，但是呢，我想强调的是，虽然雷维纳斯自己也说。 他一方面是犹太人，但另一方面是哲学家。他的思想并他曾经在一个地方说过，他的哲学并不是对犹太经验的哲学的翻译或者哲学的表达。但是我的理解是，他的思考的方式，他的反思的方式是希腊的，是哲学的。但是他的哲学里面的一些内容。 我们无法否认它很多是具有非常浓重的这个犹太的色彩，比如说我举的例子，它关于这个阿拜的，就是这个呼吁的这么个思考，关于它后期哲学关于替代，就是还有人质，奥大，包括它。 强调我之所以对他人负有责任，是因为我被他人纠缠，就obsessive，像这样一些观念或者这样一些他的哲学内容，无疑是具有犹太性的，因此呢，我愿意从两方面来看，就是说就他的思考方式、思想方式是希腊的，但是。 他又反对希腊式的存在论，或者说就是 ontology 反对希腊的存在论，但是，他的观点，他的很多内容是犹太，当然，他这里面有一个张力或者有一个矛盾，就是说，如何以希腊式的哲学或者思想方式来反对源于希腊的这个存在论。 这之间是有一种张力或者是矛盾，这个亚克德黑达在他的那个《暴力与行为上学》这篇长文当中曾经violence and metaphysics 这个文章里面对这个有揭示，所以我某种程度上我是认同他是一个哲学家，不是犹太式的哲学家。如果我们把这个犹太式的理解为一种思维方式的话，那么这是成立的。 但是如果把这个犹太式的从内容上来理解，而不是从思维方式上理解的话，我不是能够特别同意这种观点，因为它的好多内容仍然是具有犹太性。那用这个作为参照来理解中国哲学这种说法的话，我想是类似的，就是说一旦我们进入。 哲学的思维方式，那只能是希腊的。思考方式没办法，因为就像物理学、化学一样，它是由它自身的学科的规定和界限。但是中国，我们仍然可以在一种特定的意义上谈论中国哲学，或者中国式的哲学。 这个中国式的，并不是刻画思维方式，而是主要是限定它的内容，就是说它的观念。因为我理解哲学毕竟是对人类的这个生存经验的一些反思或者是一些思考或者是表达。中国人他有他自身的，好像犹太民族一样，有他自身的。 一些经验，比如说伦理的经验、道德的经验、审美的经验、甚至宗教的经验。那么，当我们把这些经验用哲学的方式重新反思和表达出来的时候，在这个意义上，一种中国式的哲学仍然是可能的。当然，这个中国式的主要是内容上限定。先生。
Alors, donc le professeur Dzhugang reconnaît effectivement que Lévinas, finalement, veut construire une philosophie qui n'est pas tirée directement de l'expérience juive. Hein, et donc, de cette manière, pour Lévinas, en fait, ce qu'il considère, en fait, c'est qu'il y a la philosophie, c'est d'abord une manière de penser. Et donc, dans ce cas-là, la manière de penser, c'est des méthodes, c'est des règles. Et donc, cela s'applique. Par contre, il y a, chez Lévinas, il y a un contenu qui est, il y a un contenu qui est typiquement juif. Par exemple, il y a des notions comme l'appel, l'otage, l'obsession. Et donc finalement, pour le professeur Dzhugang, il fait une distinction entre finalement la méthode philosophique, hein, qui a ses règles elles-mêmes, les règles de l'art, avec ses méthodes, ses principes, ses critères scientifiques. Et puis également, il y a un contenu qui peut s'appliquer, par exemple, au judaïsme dans le cas de Lévinas, ou alors, comme il le dit également, qui peut s'appliquer également à la philosophie chinoise. Donc s'il y a une philosophie chinoise, c'est la philosophie chinoise, c'est bien sûr, c'est de la philosophie, donc ça doit toujours finalement utiliser les méthodes, la méthodologie finalement de la pensée grecque, hein, parce que c'est ça de la philosophie. Par contre, cette méthodologie peut s'appliquer également à un contenu chinois. Hein, et donc là, on pourrait, cette méthodologie philosophique occidentale peut s'appliquer donc à un contenu chinois. Voilà, donc c'est la distinction qu'il fait. Ah oui, alors,
complètement. Je刚才讲这个其实是一种通常的观点。 但就我本人来说，实际上并不太认同这种观点。为什么？因为我不认为，一个民族的思维方式是可以和他的内容，这样分离开的。我不这么认为。当然，我们可以用希腊式的哲学的思维方式来重新反思和表达中国的。 生存经验、宗教经验、审美经验等等。但是，一旦这样去表达和反思的话，那么被反思和表达出来的那这个还是不是原本意义上的中国的那种文化经验、各种层次上的经验，是值得这个地方还是值得讨论的。就好。 就好像雷维纳斯自己也意识到，就说他要反对存在论，他必须要在表达方式上、写作方式上做出改变一样，因为希腊式的存在论那种暴力是和希腊式的言说方式、哲学的思考方式有内在关联的。但是雷维纳斯就像德里达指出，雷维纳斯在这个地方他确实陷入某种矛盾，所以我的观点是。 最终一定要有犹太式的哲学、中国式的哲学，而这个犹太式的、中国式的，一定不仅仅是限定内容，而且也要是在思想、思维方式上体现出犹太性、中国性。
Alors voilà, le professeur Jugang fait un complément très important, parce que ce qu'on a explicité juste avant, c'est-à-dire que ce sorte de séparation finalement entre méthode et contenu, c'est un peu la démarche académique qui est reconnue la plupart du temps en Chine, et donc c'est ça qui est actuellement... Par contre, lui, le professeur Jugang, personnellement, il ne croit pas en cela. Il pense que finalement, si on utilise la méthode philosophique grecque pour regarder le contenu chinois, on va finalement détordre finalement le contenu même de la pensée. Donc, au contraire, l'intérêt de Lévinas pour lui, c'est que Lévinas essaie également de changer la pensée elle-même. Et donc, c'est également ce que la philosophie aussi chinoise doit faire, c'est également de pouvoir remettre en cause finalement les manières de penser. Hein. Donc voilà. Donc la position du professeur Jugang est plus nuancée. Voilà.
Merci pour cette excellente question, très suggestive, hein, et pour la réponse complexe, mais je crois effectivement qu'il est difficile de supposer qu'il n'y ait pas d'interaction entre la méthode que l'on met en œuvre et le contenu de la pensée. Enfin, ça me semble vraiment difficile à penser. D'autres questions ? Ou réactions, enfin, d'autres, aussi bien sur l'une que sur l'autre intervention, bien sûr.
Question plus simple, j'ai entendu la complexité qu'il y avait à traduire Lévinas en chinois. Est-ce qu'inversement, traduire le chinois en français pose les mêmes problèmes?
Oui. Deux mots. En deux mots, voilà, oui. Voilà, vous l'avez dit, oui, c'est vrai que... Enfin, moi, je me suis aussi aventuré, enfin, le père Masson aussi, aux travaux de traduction, c'est aussi des œuvres très redoutables. Il faut distinguer quand les traductions chinoises, si c'est le chinois classique ou le chinois moderne, parce que c'est des univers très différents. Hein, le chinois classique est beaucoup plus concis, ça a des manières, donc il faut aussi... donc, ça demande de mettre en œuvre d'autres méthodes pour le traduire. C'est une langue aussi qui a des tas de références littéraires qu'il faut aller rechercher, des allusions, voilà. Mais c'est également en fait des questions très différentes. Par contre, ce qu'on pourrait dire dans le langage chinois moderne, c'est que le langage chinois moderne aussi a beaucoup évolué et qui, d'une certaine manière, s'est beaucoup occidentalisé, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le chinois qu'on parle aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, a reçu une influence linguistique énorme de l'Occident, non seulement au niveau du vocabulaire, mais également même de la syntaxe, de la phrase, etc. Et donc là aussi, c'est d'une manière, le travail est peut-être plus facile aujourd'hui de traduire du chinois, parce que c'est un peu parfois de l'Occident qui a été déjà traduit. Voilà.
D'autres questions ? Oui, bien sûr. Le micro va vous arriver, comme ça tout le monde profitera de votre question.
Le professeur Sébastien Billot de Paris 7.
Oui, merci beaucoup Thierry. Juste une petite réaction plutôt sur Yang Shuming. Tu as mis en avant le fait qu'il faisait la promotion bien sûr du confucianisme. On connaît ces opérations de reconstruction dans les campagnes et la promotion d'un éthos confucéen un petit peu partout. En même temps, Liang Shuming, c'est quelqu'un qui n'a pas véritablement soumis, me semble-t-il, tu le connais mieux que moi, hein, le confucianisme à une critique politique. Les dimensions d'idéologie impériale, toutes les dimensions politiques du confucianisme, il me semble qu'il les a, disons, relativement peu critiquées. Et de ce point de vue-là, il est assez différent d'un certain nombre d'intellectuels qui se réclament du confucianisme également au XXe siècle et qui, eux, n'auraient jamais dit, et je crois que nous avons dit ça au début, que la Chine ne serait jamais démocratique, mais qui, pour certains, ont considéré justement que, inspiré d'ailleurs par le bouddhisme, que la démocratie pouvait être un espèce de dharma universel, en fait, quelque chose par lequel tout le monde pouvait passer. Donc il y a une différence qui est très, très nette, et beaucoup des intellectuels confucéens ont essayé de repenser ce que pouvait être ce qu'on appelle le wai wang en chinois, c'est-à-dire le politique. Dans un contexte de modernité, dans un contexte qui n'est plus le confucianisme classique. Donc, que peut être le confucianisme politique contemporain dans un contexte contemporain. Liang Shuming me semble avoir quand même laissé un peu toutes ces questions de côté. Et je me demandais du coup dans quelle mesure l'extrême regain d'intérêt pour sa pensée aujourd'hui en Chine, et pas aussi très largement lié au fait qu'il offre une vision peu critique, en tout cas, du confucianisme dans cette dimension politique. Ça se voit chez notamment tous les activistes qui se réclament de lui et qui souvent, disons, sont peu enclins à discuter beaucoup de politique.
Alors, c'est la question du politique chez Liang Shuming. Je crois que, effectivement, il a beaucoup de difficultés avec la notion de l'État. Parce que finalement, la notion de l'État, c'est une notion aussi très occidentale qui arrive en Chine. Et pour lui, il n'est pas du tout à l'aise avec ça. Pour lui, son univers, bon, pour lui, la morale confucéenne est bâtie d'abord à partir de la famille, etc., de la communauté de base. Alors justement, son message peut-être politique, ça va être de quitter l'université de Pékin, de s'engager dans les communautés de base rurales. Alors, il ne fait pas la révolution comme Mao Zedong dans les campagnes, mais il va un projet éducatif qu'on peut dire qui aussi a une dimension politique, même si ce n'est pas, bien sûr, pour contester l'État en lui-même. Alors, je dirais qu'une autre dimension politique de Liang Shuming, à part les communautés de base, c'est d'être finalement une sorte d'indépendance très forte, d'indépendance d'esprit. Ça va être un des seuls, lors de la révolution culturelle, qui va oser publiquement contester Mao Zedong, et donc il est admiré aujourd'hui comme représentant une sorte de conscience de la Chine, un des rares intellectuels chinois qui publiquement a osé s'affronter et à dire non à Mao Zedong. Mais ça, c'était finalement dû à une sorte de posture, on peut dire, personnelle, spirituelle, je crois, qui était très ancrée également dans son bouddhisme, finalement, dans tous les exercices spirituels de bouddhisme qu'il faisait à l'époque. Voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui va repenser la Chine moderne au niveau de la dimension étatique.
Donc, bien sûr, voilà, le
grand spécialiste.
Non, d'abord, à point de vue du bouddhisme, mais là, Sébastien Billot pourrait en dire plus que moi. Il y a beaucoup de mouvements de relecture des textes confucéens actuellement en Chine qui, en fait, sont mis en œuvre par des bouddhistes, avec l'idée que les textes confucéens sont une espèce de pré-catéchèse qui est plus facile à lire que les sutras bouddhistes. Et donc, on retrouve un peu ce format de Liang Shuming, d'une certaine façon. Donc d'abord, passer par une pratique confucéenne et ensuite déboucher vers quelque chose de plus transcendant dans le bouddhisme. Mais alors, moi, j'aurais une question, oui, c'est qu'est-ce que fait Liang Shuming des néo-confucéens, c'est-à-dire de ceux qui, du XIe au XIXe siècle, ont justement, passant par le bouddhisme sans ses parents et en même temps vivant dans, étant un peu tombé dans la marmite bouddhiste quand même, essaye de promouvoir justement un confucianisme qui est ouvert aussi à la transcendance et on pourrait dire aussi avec Lévinas, au regard de l'autre. Enfin, le Si Ming, le Zhangzai, l'inscription de l'Ouest, on nous dit quand même qu'il s'agit de sauver, de secourir tous les affligés du monde. Mon autre remarque, ce n'est pas une question, c'est réception de Liang Shuming en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est nulle. Parce que nous sommes dans une situation où les intellectuels chinois essayent de comprendre, de traduire, de lire tous les livres occidentaux pour mieux connaître l'Occident afin de mieux se connaître eux-mêmes, alors qu'en Occident, la philosophie chinoise reste un peu une pacotille un peu exotique et que, comme le disait le professeur Chen Lei, il n'y a plus, ni en Occident, ni au Japon, de faculté de philosophie chinoise. Donc, alors, qu'est-ce qu'on entend par réception de Liang Shuming en Occident? Moi, je ne sais pas très bien.
Merci. Au niveau du néo-confucianisme, ce qui est intéressant, c'est que Liang Shuming, quand il était petit, en fait, il a reçu une éducation occidentale. C'est très intéressant. Son père était vraiment un personnage très complexe, parce que même s'il s'est suicidé en attachement à la dynastie, en fait, il a envoyé ses enfants dans les premières écoles occidentales à Pékin, ce qui fait que les enfants ont appris en fait donc la géographie mondiale, etc., mais pas du tout la tradition chinoise, la tradition confucéenne. Donc Liang Shuming, de certaine manière, c'est intéressant. Après le suicide de son père, le passage au bouddhisme, va essayer de redécouvrir une tradition qu'il ignore complètement. Et donc, il va commencer à lire des textes. Et alors, de cette manière, il connaît très peu, finalement, les textes de Confucius. Lui-même, il dit qu'il les a lus alors qu'il avait, à l'époque, plus de 20 ans, alors que tout le monde, normalement, les lisait à l'école primaire. Donc finalement, c'est quelqu'un qui connaît peu sa propre tradition, mais qui va devenir finalement également un promoteur de la tradition culturelle chinoise. Alors au niveau du néo-confucianisme, alors c'est sûr qu'il n'a pas forcément lu beaucoup. Par contre, il dit qu'il a été très marqué donc par le mouvement de la fin des Ming, notamment ce qu'on appelle donc l'école de Taizhou, le Wangen. Donc c'est une sorte de, là aussi c'est une philosophie intéressante qui est très également basée sur une sorte de libération de l'esprit qui attache une grande importance finalement à la liberté individuelle. Donc on fait de ce mouvement finalement de la fin des Ming une sorte d'éclosion finalement d'une école du sujet, de la personne à la fin du 16e, 17e siècle. Donc voilà pour la question du néo-confucianisme. La question de la réception finalement de Liang Shuming, c'est vrai que elle est pas nulle dans la mesure où il y a quand même eu les traductions qui ont été faites, il y a des choses qui existent. Enfin, en français, bon, il y a la traduction que tu as faite, mais également celle de monsieur professeur Van der Merch aussi avec le Shengyi. Donc il y a des choses qui existent, qui, d'ailleurs même j'ai vu, là, j'étais à la librairie Yofong et j'ai vu que Tradition Est et Ouest a été republié par Yofong. Donc, bon, ça prouve qu'il y a quand même, c'est pas complètement nul, c'est-à-dire qu'il y a des rééditions, il y a un intérêt. Alors, je sais pas, peut-être aussi, Sébastien peut-être connaît mieux, justement, la réception en France du mouvement des néo-confucéens. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas des...
Ça reste quand même limité.
Voilà. Donc, il y a tous nos efforts.
Je reviens à la question de la traduction, enfin, question que je pose dans le champ, on pourrait dire des traductions comparées en quelque sorte. Donc on a compris que Lévinas est très difficile à traduire en chinois, j'admire vraiment. Ma question c'est, parmi les autres philosophes européens qui ont été traduits en chinois, est-ce que certains ont été quand même plus faciles à traduire et pour quelles raisons? Ou bien est-ce qu'il y a une difficulté un peu générale? Et si certains... Est-ce que Platon, pour prendre un grec, ou Cicéron, pour prendre un latin, ou bien Kant, justement, ont été plus faciles, ou sont plus faciles à traduire en chinois, ou bien est-ce qu'il y a une difficulté globale? Voilà, et comment interpréter cela?
古典作家的作品像 柏拉图、西塞罗，可能翻译起来甚至要比莱维纳斯更困难一点。因为我虽然没有专门研究古典作家的这些哲学，但是好像我听我的一些同行同仁们就是谈到，就是他们的比如说柏拉图，包括他对话的这种真伪啊，包括他的这个校定这个文法，就是怎么断句啊，好像不同的版本都是有争议的，而且好像古希腊文的语法是比现在的法语更复杂。在这个再加上像柏拉图，尤其柏拉图他的哲学是以对话的形式，是以类似于剧本啊文学的形式写的。那么他的那时候的哲学思想还没有像亚里士多德之后以论文的形式来表达。所以怎么样理解他的那个哲学思想，怎么把它翻译出来，对于译者来说可能挑战要更大，甚至大于列维纳斯。但是在当代哲学家当中，我觉得列维纳斯的翻译呢，就是在仅限于当代的比较来的话，是确实比较困难的，比较困难。我翻译他的总体无限用了7-8年时间。他的主要困难就在于我这提到，就是说他的一个写作的方式上，跟德国的那种很严谨的那种推理式的那种写作方式不是特别的一样。他比较少的用那种连接论证的那一些词，有时候他的内在的这个思路不是特别好的把握，在这一点上是比较困难。另外他有的地方也用一些大量的这个隐喻，一些描述性的语言，这也给翻译带来一些困难。相比较而言，当然康德的翻译也是非常困难的。我在文章当中曾经引过一位汉学家的话，他说把康德哲学翻译成中文是一件不可能的任务。当然这个中国哲学界大家公认这个康德哲学是非常非常难译的。但是不同的哲学家可能有不同的困难。就好像幸福的家庭总是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。谢谢。
Donc en fait, donc il distingue donc la traduction des classiques et des modernes. Pour ce qui est des traductions des classiques, c'est vrai que la difficulté, par exemple, des dialogues de Platon, c'est justement, c'est le d'abord c'est qu'il y a des éditions des textes, donc faire des éditions critiques. Et actuellement, les Chinois sont pas maîtrisent pas ces techniques justement finalement de l'édition des textes. Donc la difficulté de plusieurs éditions, également la grammaire grecque est finalement plus difficile que les langues modernes. Donc, et notamment également le style de dialogue de Platon rend la difficulté encore plus grande. Alors, relativement, les modernes sont plus faciles, mais Lévinas est quand même un auteur très difficile. Il a lui-même, professeur Zhugang, a passé 7-8 ans à traduire donc Totalité et Infini. La difficulté de Lévinas, c'est qu'il s'exprime dans un langage où il n'y a pas des connexions logiques dans son argumentation. Donc c'est très différent de l'allemand, ou d'un langage philosophique allemand où il y a beaucoup de liens logiques. Là, il n'y a pas une argumentation très serrée. Et donc Lévinas parle beaucoup avec un langage également descriptif, métaphorique, qui est aussi difficile parfois à saisir et à bien comprendre. Voilà. Donc il reconnaît qu'il y a aussi une sorte en Chine on dit que c'est impossible de traduire Kant en chinois, bon pourtant il y a des gens qui le font, voilà, donc il y a une difficulté majeure, mais voilà, donc reconnaître la difficulté, mais tout, ça toujours s'y atteler.
是好，我有一个问题，跟刚才他们问梁漱溟在西方的感觉，我现在就想问莱维纳斯在中国是他，我们中国人对他是怎么接受的？
La question, justement, c'est sur comment la réception de Lévinas en Chine.
Ah, merci. 相对于这个法国当代其他的这些家来说，列维纳斯在中国的这个接受状况其实并不是特别的，怎么说，不是特别的好，或者说，但研究的不是特别的深入和多，也可能确实跟他这个哲学难理解起来还是有点困难有关，一个表现就是。到现在为止，他的最主要的著作仍然没有被译成中文出版。虽然《多达利对安菲利》已经被翻译出来，但是交到出版社有两年了，但是因为出版社的拖延还没有出版。然后他的后期的著作《奥特曼盖特和奥德拉德雷桑斯》到现在也没有出版。就是从这个就可以，你要比较一下，像伯格森的作品，让保罗萨特的作品。梅洛庞蒂的主要作品，还有其他当代的一些法国哲学家，很多人的主要作品都已经很早就翻译为中文，得到广泛的接受和研究。但是唯独像保罗利科也是这样，利科的有近十部作品，主要作品都翻译为中国，
十部，
将近十部啊，也至少七八部，对。但是像列维纳斯到现在为止，只有他的从存在到存在者existence，还有他的上帝、死亡与时间，还有塔木德思想God Like to Time，只有这三本书翻译成中文，但这三本书在他著作当中其实都不是最重要的代表性的作品，所以在。中文学界列维纳斯作品呢就大家谈论的很多，因为他的思想很吸引人，就是关于他者的思想是有很强的这样一种启发性，能够给我们提供一些资源去探讨当代伦理和甚至国际政治之间的一些问题。但是大家仅仅就是用它把它简化成一些类似于公式的东西去谈论去运用。而真正的接受其实不好并不多，比如说以列维纳斯为题的博士论文其实也不是很多，公开出版的只有孙向刚才提到孙向成教授的博士论文，其他的好像也有一些但是没有出版啊。对。
Donc au niveau de la réception de Lévinas en fait。Si on compare avec beaucoup d'autres auteurs français, en fait, il est très très peu reçu. C'est-à-dire que Bergson est très bien reçu en Chine depuis très longtemps. Sartre aussi a été très 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 bien traduit. Merleau-Ponty aussi est très bien traduit. Paul Ricoeur également, il y a plus de 10 œuvres qui ont été traduites. Donc voilà. Par contre, pour Lévinas, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de gens s'intéressent à sa pensée, la pensée de l'altérité qu'on applique à la question de la morale, la question de la politique internationale, mais il y a peu de choses en profondeur. Il y a simplement une thèse publiée sur Lévinas et autrement des œuvres de Lévinas. Il n'y a que 3 œuvres de Lévinas qui ont été publiées. Ce sont des œuvres mineures, ce n'est pas les œuvres majeures de Lévinas. Donc autrement qu'être, il n'est toujours pas traduit. Voilà, donc il y a un vrai problème de la traduction de Lévinas en Chine qui est lié aussi à la difficulté de sa pensée.
Y a-t-il encore l'une ou l'autre question? Oui.
Je crois qu'il y a pas mal de traductions de Derrida, Lyotard, Foucault, etc. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que véritablement, qui ont à certains titres quand même une dimension sociale, voire politique? Donc, est-ce que finalement, ce sont des auteurs qui sont étudiés dans des cénacles, donc sur des travaux académiques, et donc finalement des spécialistes, ou est-ce que ça diffuse un petit peu dans des groupes de pensée, un petit peu plus largement, que ce soit dans le domaine social ou évidemment dans le domaine politique?
Tachem Jada, Zay Yorando de Lichier, Sosham Diap, et de Lida, Lyotard, Fouque, Tabendo Zaytan, Jig Jungjus de Lichier Wenti, Jig Chule, Jig Shui Shujie, Jouai, Yomeo, Inxiang, dans Jig Shuhuea, Jig Chita, Jig Shuhue de Pouton de Tsamien, Jig Jungjus Formien, Yomeo, Inxiang.
据我所知，法国这些哲学家当中真正到超出学术界之外的，一般的人群能够影响到的，可能还是萨特多一点，像福柯、利奥塔、德瑞达，更多的是在广义的这个文化界、知识界，不限于哲学界。包括像政治学界、社会学界、文学界，有广泛影响。但是呢，如果说这种影响超出了这个人文的学术的这个知识分子圈，对一般的学生啊影响的话，据我所知，不是特别明显。可能，德里达、福柯可能稍微有一点影响。他德里达与福柯曾经在就是过去的十几年当中，他们特别像德里达影响非常大，但是最近这些年呢，似乎大家对他关注又少了一点，福柯也是这样，当然学术界对他们的研究一直比较多，翻译介绍远远多于列维纳斯，但是真正对年轻学生影响或者对一般人影响的，可能还是萨特。在上世纪八十年代的时候，萨特的那种强调绝对自由的思想，他人是地狱，强调人是绝对自由的，不仅在学术界，而且对上世纪八十年中国普遍的这种思想的解放，这种产生过非常大的影响。一个尼采，一个萨特，在那时候。不仅对学术界、哲学界，对一般的青年学生都产生很大影响，但是现在好像很难出现那种情况，因为现在更多的一般的年轻学生不太爱去深入了解、深入看书籍。
Voilà. Donc en fait, les philosophes comme Derrida, Lyotard, Foucault, ils ont une influence très réelle, pas seulement dans les départements de philosophie, mais dans les départements de sciences sociales, d'histoire. Et donc ils ont une influence très réelle dans le monde académique. Par contre, ils ont du mal à avoir une influence dans la société en général. Le seul auteur qui est vraiment français, qui a eu une influence considérable dans la société chinoise dans les années 80, ça a été Sartre. Avec toutes les notions justement de liberté, qui a justement représenté une sorte de libération énorme à l'époque, dans le début de la libération économique en Chine. Donc c'est vraiment Sartre qui est l'auteur qui, à l'époque, avec Nietzsche, était vraiment, qui a eu une influence au-delà. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à retrouver un philosophe comme ça qui aurait une influence aussi massive.
Alors nous allons très vite clore notre soirée, mais il y a encore une question de Tianyan Rouget.
老师，我有一个问题是，我看过一本张祥龙教授的书，是从现象学到孔夫子。那么在这本书中，他认为中西方思想的唯一对话的途径，就是有一种可能，就是现象学与中国哲学的对话。那您作为现象学的研究者，您是否也这样认同他的看法？Alors, dans un livre de professeur Zhang Xianglong, philosophe,qui un livre, c'est, si on traduit littéralement, c'est de la phénoménologie au Confucius. Dans ce livre, il pense que la seule possibilité de dialogue entre la philosophie chinoise et la philosophie occidentale, c'est par la phénoménologie. Est-ce que vous, comme phénoménologue, vous pensez pareil, que c'est la seule possibilité ?
好，谢谢。您提到的张向龙教授呢，是我的博士论文指导老师。他是国内就是说 把现象学和中国哲学、中国思想能够结合起来讨论比较多而且也算比较好的一个代表。不过对于您刚才提到他那个观点，我对他的思想是非常非常熟悉的。他是特别强调在西方哲学各种思想方式或者流派当中，现象学确实是在他看来最有可能与中国哲学发生对话，并且会产生某种新的思想形态，新的给中国传统哲学传统思想带来新的可能的这么一种西方哲学。但是您提到的是现象学是唯一的这种，对，我印象当中他应该不会用唯一这个词，因为这不符合他的思想的这种方式，而且我相信应该他也不会，确实不会这么说。因为为什么呢？因为他不仅从现象学的角度啊来与中国古代哲学进行对话，而且他对分析哲学，尤其是后期维特根斯坦，也对塔斯基Tusky 的真理观他也非常感兴趣，而且也尝试把霍奇维特根斯坦的思想塔斯基的一些思想，甚至实用主义，他在美国读书受实用主义影响也比较大，甚至把实用主义的一些思想也尝试着跟中国思想进行对话。那么他之所以看重，特别看重现象学，看重后期的维特根斯坦，包括德里达这些，他是因为这些哲学对于他来说都是比较有，不是那么僵硬的，不是那么僵硬的在他看来不是那么僵硬的概念哲学，而是能够比如说现象学的原则是，首先它是还原的原则。还原什么意思呢？就是说首先是要悬置我们比如说无论是自然的态度还是科学的态度所具有的一些先见一些前设，要悬置。悬置之后是朝向事情本身我不知道反正怎么说，就是粗赞和在面对实事本身像这样一些能够更好的帮助我们跳出西方哲学中心这么一个框架来如其所示的跟中国哲学进行对话交流，所以他比较看重现象学，但是呢应该不是唯一的。
Alors, en quelques mots, en fait, donc, le professeur Zhang Xiaolong est son directeur de thèse à donc, quand il était étudiant à l'université de Beida. Et donc, effectivement, le professeur Zhang Xiaolong essaye d'allier la phénoménologie avec la philosophie chinoise. Et notamment, il adopte les concepts de réduction, etc. Et donc, il pense que, à travers la phénoménologie et la philosophie chinoise, on peut créer une nouvelle pensée. Mais c'est pas simplement la seule manière. Il y a d'autres philosophies occidentales qui sont intéressantes. Et donc, notamment, il utilise la philosophie analytique, et notamment Wittgenstein, mais également le pragmatisme américain. Voilà. Donc c'est un panorama beaucoup plus large.
Il me reste à conclure cette soirée et en remerciant d'abord très vivement nos deux conférenciers. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir entendu Zhu Gang et nous le remercions beaucoup d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir parlé des enjeux de cette traduction d'Emmanuel Lévinas en chinois. Mais je remercie également Thierry Ménard de nous avoir fait un peu mieux découvrir Liang Shuming et puis d'avoir joué en plus le rôle de traducteur et d'interprète, ce qui compliquait encore la tâche. Je vous remercie aussi vous tous pour les questions et l'intérêt que vous avez porté à cette soirée. Bon, il me semble qu'elle était fort stimulante et que nous avons encore beaucoup de chemin à faire dans ce sens pour mieux connaître de part et d'autre la philosophie chinoise en France et la philosophie française sans doute en Chine. Mais je vois que vous êtes beaucoup dans cette salle à vous intéresser à cela et à relever ce défi. Donc, merci et bonne soirée.